Voici le deuxième extrait de la conférence donnée par M. Serge Cazolet au début de juillet 2005. Cette fois, il aborde les manuscrits et le codex, ainsi que le sens des N renversés qu'on retrouve dans l'énigme de Rennes-le-Château. Ce parchemin est un faux. Il est signé PS pour prieuré de Sion. Il accompagne cet autre document présenté en page couverture de ce livre, Le trésor maudit de Rennes-le-Château, écrit par Gérard de Sède. Eh bien, Claude Latour nous avait prévenu lors de ses conférences au mois de mai 2005, tant à Québec que les conférences données à Montréal, intitulées Le Da Vinci Code décodé, du DVC à RLC, c'est-à-dire le Da Vinci Code à Rennes-le-Château, que le fameux livre de Gérard de Sède, Le trésor maudit de Rennes-le-Château, est ce qui a inspiré les auteurs anglais de l'énigme sacrée, qui plus tard ont publié La clé du mystère de Rennes-le-Château. Aujourd'hui, grâce aux recherches de Serge Cazelet, nous allons enfin connaître toute la vérité sur ces manuscrits, parchemins ou codex. Et de plus, il nous expliquera le sens sacré, occulte, des N renversés qu'on retrouve un peu partout dans toute l'histoire de Rennes-le-Château et du Da Vinci Code, évidemment.
Alors, j'avais préparé deux sujets. Un sur les fameux parchemins. Je vous ai copié ici un site web parce que je vous dis que la découverte dont je vais vous faire part ici, c'est ce bonhomme-là qui l'a fait, Willem Wilker, qui est un professeur d'université en Allemagne, mais qui enseigne la médecine. Et son hobby, c'est les études bibliques. Et il a fait une découverte. Et il a été le premier, en tout cas, à sa connaissance, à lui, à ma connaissance, à la connaissance de plusieurs chercheurs qui s'intéressent à ces choses-là, le premier à signaler quelque chose de très, très intéressant. Alors, je vais simplement vous le montrer, l'adresse pour ceux qui sont abonnés, ceux qui vont avoir accès aux sections. L'adresse de ce site web-là va être en ligne, vous allez pouvoir y aller. Alors, voilà.
C'est le fameux document.
Si vous allez à la page 5, qui est ici, vous avez ce qui est appelé ici le faux parchemin.
Prieuré de Sion. Mais il est écrit comment en latin?
Il est écrit en latin.
Toi, tu es capable de comprendre ce qui est écrit là.
Oui. En fait, depuis toujours, tout le monde a reconnu que c'était un épisode des Évangiles qui était là, avec des différences par rapport au texte latin connu de la Vulgate. Des différences qui ne jouent pas nécessairement sur le sens, mais des différences qui jouent sur la syntaxe. Et de là, étant donné que c'est un texte qui était présenté comme étant un parchemin qui avait été retrouvé présumément par l'abbé Saunière, que l'abbé Saunière était allé à Paris pour le faire décrypter, et tout le reste de l'histoire, là, justement, dans le Da Vinci Code, on parle de ces parchemins-là. Et la plupart des chercheurs qui s'intéressent à Rennes-le-Château, à cette histoire-là, s'intéressent à ces parchemins-là. Tout le monde reconnaît que c'est un épisode des Évangiles, mais il y a des différences par rapport au texte de la Vulgate. Ce que c'est ça, c'est une page du Codex de Bèze, ou Codex de Bézaï. Qu'est-ce que c'est ce codex-là? C'est un manuscrit des Évangiles, un manuscrit bilingue, grec et latin, qui date du 5e siècle, qui a été retrouvé à Lyon pendant la Réforme protestante. C'est un collègue de Jean Calvin qui a trouvé ce manuscrit-là. Il l'a lu et il l'a déclaré inutilisable pour établir une version imprimée du texte grec. Il ne s'intéressait pas à la partie latine, il s'intéressait à la partie grecque. Théodore de Bèze a déclaré ce manuscrit-là inutilisable parce qu'il ne reconnaissait pas le texte des Évangiles. Pourtant, c'est le même texte, à quelques différences près. Il y a des prépositions qui sont différentes, il y a des particules de liaison qui sont différentes, il y a le temps des verbes qui sont souvent différents. Quand je parle d'une préposition, je vous donne un exemple avec le français, c'est si je vous disais « je suis entré par la porte », Ça, c'est du bon français. Mais si je vous dis « je suis entré avec la porte », là, vous allez dire « ben, c'est pas du bon français ». Mais ça peut être quand même ça qui est arrivé. « J'ai pu entrer avec la porte ». Si j'écris ça « je suis entré avec la porte » et que dans 1500 ans, il y a quelqu'un qui traduit ma phrase dans sa langue à lui, dans ce temps-là, il va dire « ben, il a fait une faute de syntaxe ». On va rétablir le texte avec la porte. Il est par la porte, il est entré par la porte. Alors, le codex de Bèze, la grande différence par rapport au texte reçu, autant dans sa section grecque, dans sa section latine, on va en reparler parce que c'est là qui fait qu'on peut établir avec certitude que le document, le parchemin qui est ici de Rennes-le-Château, l'affaire Rennes-le-Château, est définitivement et sans contredit issu du codex de Bèze. Pour en venir seulement au texte latin, le texte latin qui est là est différent du texte de la Vulgate et c'est un texte latin qui est unique, un texte latin qui ne se retrouve pas dans d'autres manuscrits. Les savants présument que la version latine qui est là a été traduite directement du texte grec et n'a jamais été connue ensuite par Jérôme ou par personne d'autre, ce qui fait que le texte latin qui est présenté là est absolument unique. C'était pour crypter ou pour, disons, montrer ou laisser sous-entendre qu'il y avait un message codé dans le parchemin, dans le faux parchemin. Alors, on a modifié certaines lettres où il y a eu certaines même, que, comme par exemple celle-là ici, on peut lire que David, OK, ou Dawid, okay, c'est le nom du roi David. Dans le codex de Bèze, c'est vraiment Dawid qui est écrit, mais dans le parchemin, ici, on voit qu'ils n'ont pas reconnu qu'il y avait un « i » ou ils l'ont modifié, ou ils n'ont pas bien lu. Okay, ça, c'est le texte qui est ici, c'est celui qui est dans les parchemins. Alors, vous voyez, dans les parchemins, ils ont écrit « le faux parchemin », c'est ça. Ils ont écrit « l'Égistis », alors que dans le codex de Bèze, c'est « l'Égistis ». Ici, ils ont écrit « Daouté », alors que c'est Dawid. Ici, ils ont écrit « Esurut », alors c'est « Esurit ». Vous voyez ici, « Erai »,« Erat ». « Quia »,« Quid ». Ça change le sens, puis ça a permis à ceux qui ont fabriqué le faux parchemin à crypter un message « Il est là, le trésor ». OK? Ça a permis de crypter ça en faisant quelques fautes dans la quelques fautes probablement volontaires. Là où le codex de Bèze a de l'importance, c'est dans la section grecque, parce que le texte présente des particularités, des anomalies syntaxiques. Puis c'est ça le travail qui se fait actuellement au CNRS sur le codex de Bèze, c'est de lire ce texte-là et de voir que le texte est composé ou il est écrit. Bon, c'est le texte était connu des plus anciens pères de l'Église, par exemple Clément d'Alexandrie. Quand il cite les évangiles, il le cite selon un texte grec qu'on ne retrouve que dans le codex de Bèze. Il y a des manuscrits coptes, des manuscrits arméniens encore, qui présentent une version des évangiles qui est identique au codex de Bèze, qui fait par exemple qu'un texte qui serait au passé dans le texte grec, reçu dans le texte grec qui est imprimé partout, ce verbe-là pourrait être au futur dans le codex de Bèze. Alors, nous, quand on lit dans nos évangiles, on écrit par exemple « Jésus est entré à Jérusalem », mais dans le codex de Bèze, ça serait écrit « Jésus entrera ». C'est pas pareil. Il y a des différences de prépositions, comme si je vous dis tantôt « je suis entré par la porte » ou « je suis entré avec la porte ». Puis si on nous dit à un moment donné que la porte, c'est un personnage, qu'on dit ça ailleurs dans le texte, bien, dans un exégète qui lit le texte reçu « je suis entré par la porte » ne voit pas le rapport entre un personnage qui s'appellerait la porte avec lequel le texte du Codex de Bèze, par exemple, dirait qu'il est entré avec lui. Alors, c'est des particularités comme ça, et c'est ce qui a fait que quand Théodore Bèze a vu ce manuscrit-là, il l'a déclaré inutilisable, il l'a même déclaré fautif, dangereux, il a été scandalisé par ce qu'il lisait. Il l'a vendu aux Anglais, il l'a vendu à l'Université de Cambridge, où il est conservé depuis ce temps-là. Mais c'est intéressant de voir que... quand même que le codex de Bèze, sur lequel beaucoup de chercheurs actuels au CNRS font de la recherche, qui se retrouve mêlé tout d'un coup dans l'histoire de Rennes-le-Château. Ça, j'ai trouvé ça fascinant. Ce que vous avez à côté encore sur la page 6, vous avez la page couverture d'un dictionnaire de la Bible de l'abbé Vigouroux. Cette page-là du Codex de Bèze est reproduite dans le dictionnaire qui est ici, qui est un dictionnaire qui a été publié à la fin du 19e siècle. Pour l'anecdote encore, ça c'est toujours le même Allemand dont j'ai donné le nom tantôt, il nous dit que d'après certains chercheurs, l'abbé Saunière aurait rencontré Vigouroux à Saint-Sulpice lors d'un de ses voyages à Paris. Alors c'est étonnant que exactement cette page-là du Codex de Bèze, qui est dans le dictionnaire de Vigouroux, se retrouve ensuite mêlée à l'histoire du parchemin.
Et est-ce que chronologiquement,
c'était
correct, c'est un
anachronisme? Ben, c'est un anachronisme de dire que ce parchemin-là est ancien. Le parchemin ne peut pas être plus ancien que la fin du 19e ou le début du 20e siècle. Parce que c'est à ce moment-là que le Codex de Bèze, que des photos du Codex de Bèze ont commencé à être publiées. Ceci étant dit, qui a rencontré Vigouroux, oui. Ça semble-t-il que c'est documenté, que c'est...
OK.
J'avais préparé quelque chose d'autre sur les N inversés. Ben c'est ça. C'est mon hypothèse de travail, c'est toute la section, cette section-là dans le livre des nombres, joue autour de la notion du troisième jour. Il se passe quelque chose qui dure trois jours. Puis le texte qui est là, étant donné qu'il est entre deux N, on dit que ce texte-là, il est hors Torah, il est hors histoire. Dans la Mishnah, Judas le prince, qui donne les clés de l'arithmologie, qui est un autre personnage qui n'intéresse plus personne, mais qui est très intéressant. Je pense que s'il n'intéresse plus personne, c'est parce qu'il donne des clés. Entre autres, il dit que la clé de l'arithmologie de la Torah, c'est une base 7 et non une base 10, comme les pythagoriciens, parenthèse. Lui, il dit que quand un texte est brûlé, qui est hors histoire, s'il compte 85 caractères, il fait partie de l'histoire. Or, si on compte le nombre de caractères, il y en a 85. Si on fait l'arithmologie de chacune des lettres, ça donne un nombre. Si on applique ensuite les règles de lecture rabbinique du premier siècle, on est reporté à l'histoire de l'embaumement ou de la momification de Jacob à la fin de la Genèse. Si on compte le nombre de jours de deuil, le nombre de jours que la momification a duré, ça donne 117. Si on ajoute les trois jours qui sont manquants, qui sont brûlés à cet endroit-là, ça donne 120, puis on tombe dans le jubilé. Puis ensuite, on peut faire des analogies avec ce qui est dit du troisième jour dans les évangiles. C'est une longue histoire, mais on a... Parce qu'il faut, appliquer les règles de lecture rabbinique qui ne sont plus... ou les règles de lecture qui étaient utilisées par les gnostiques, qui ne sont plus appliquées, qui ne sont plus connues, qui ne sont plus enseignées aujourd'hui, mais qui existent néanmoins. C'est pour ça que...
de la profanation sur le sacré.
Dans le judaïsme, on a cherché en 135 à occulter l'origine du texte, en l'année 135, et puis on ne tient plus compte de ce genre d'anomalies-là non plus, qui sont dans le texte, qui sont pourtant des clés d'interprétation pour ceux qui l'ont écrit. Des clés de détails qui... Alors, qu'est-ce que ça vient faire avec notre histoire de Nicolas Poussin puis du N inversé? Ben, c'est le fait qu'il y a un tombeau qui est là, le fait que, comme je vous dis, c'est une hypothèse de travail, qui restera à vérifier, à exploiter, à vérifier. Toute l'affaire de Rennes-le-Château n'a toujours dit que il y avait un secret autour de Jésus qui était mêlé à ça. Bon, il y a eu toutes sortes d'hypothèses, mais ça pourrait être peut-être éventuellement une hypothèse, c'est il nous renverrait à ces N inversés-là, puis à la notion du troisième jour. Bon, ça reste à...
Ouais. OK. Ben, merci beaucoup.
Bien voilà pour les explications d'un spécialiste. Les trois jours, ne vous rappelle-t-il pas les trois jours que Jonas a passé dans la baleine? Ou les trois jours de la descente aux enfers de Jésus après sa mort avant sa résurrection le dimanche de Pâques? Et aujourd'hui, est-ce qu'on ne parle pas d'une prophétie de 3 jours de noirceur? Il y a 2 autres entretiens avec Serge Cazelet qui sont disponibles en version vidéo pour les abonnés du Club Créé et en version audio pour tout le monde. À bientôt!